Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir à tous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Théo. J'espère que vous allez bien.
Eh bien, ça va très bien.
Avec ce mauvais temps, beau temps. Bon, enfin, il ne pleut pas déjà.
Ça va mieux déjà.
Hein, oui. Déjà, on a le soleil qui est revenu la semaine dernière, le week-end. Vous avez eu de la chance. Hein, parce que dans le sud, il ne faisait pas très très beau. Moi, je parle en connaissance de cause. Voilà, bah, je suis ravie de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'avais envie de fêter les Didier. Voilà, alors, bah oui, ça m'arrive des fois comme ça, j'ai
d'accord.
Des lubies. Eh bien, c'est la Saint-Didier, donc en fait.
Bonne fête à tous les Didier.
Voilà, bonne fête à tous les Didier. Maintenant, je vais prendre l'habitude de faire ça le mardi, okay. ça pourrait être sympa. Moi, en plus, j'en connais plein des Didier, donc je les embrasse. Voilà, j'ai trouvé encore des recettes. Alors, toujours aussi délicieuses et faciles à réaliser. Hein. Nathalie, tu nous donneras toujours des astuces.
Ouais.
Non, pas des astuces. Tu interviendras sur des ingrédients.
L'histoire des ingrédients.
Oui, l'histoire des ingrédients. Mais parfois, tu pourras peut-être intervenir sur du matériel, par exemple. Ou, tu vois, voilà. C'est une lubie qui me vient comme ça. J'aime bien changer les choses sur leurs origines, les recettes des origines. Mais le matériel, tu vois, comme la semaine dernière, on a fait la pâtisserie, ça peut être sympa.
Ouais.
Hein, d'où vient le frigo, comment a été créée la poêle, les moules, tu vois, tous ces trucs-là. Ça a une histoire et moi, j'aime bien ce genre d'histoire. Voilà, alors, voyons ensemble ce menu de ce soir. Donc, ce soir, on a fait une quiche tatin. Alors, la quiche tatin, vous aurez besoin de 20 centilitres de crème fraîche, 150 grammes de râpé, de gruyère râpé. Vous pouvez prendre du comté, c'est tout aussi bien. Une pâte feuilletée, du sel, du poivre, 7 pommes de terre, 8 fines tranches de lard, 3 œufs entiers et du fromage de chèvre. On va un petit peu l'agrémenter pour que ça soit un petit peu plus relevé. Pour le matériel, on aura besoin d'un moule à tatin, d'une râpe, d'un couteau, d'un saladier, d'un fouet, d'un cuit-vapeur et puis d'une fourchette. Hein. Pour le plat, on aura de l'ossobuco de veau. Pour cela, vous aurez besoin de 10 centilitres d'huile, d'une boîte de 400 g de tomates concassées, de 200 g de carottes, 100 g d'oignons, c'est environ 2, de la farine, du poivre, du sel, 6 tranches de jarret de veau, donc qui font environ 200 g chacune, hein, parce que ça réduit un petit peu. Et puis 3 gousses d'ail, 20 centilitres de vin blanc et un bouquet garni. Alors, je vous rappelle, le bouquet garni, c'est du thym et du laurier. Si vous avez un peu de romarin, vous pouvez en mettre un petit peu dedans, hein, c'est pas... Ou vous pouvez mettre aussi une branche d'origan. En ce moment, dans les jardins, ils sont magnifiques. Côté matériel, vous allez avoir besoin d'une cocotte, d'un pinceau, d'un mixeur et d'un couteau. Et puis, on finira notre repas par une panna cotta à la fraise, puisqu'on a commencé à avoir des fraises oui. Dans nos jardins, sur les étalages des marchés et des marchés. On aura besoin pour la panna cotta à la fraise de 100 g de sucre, de 2 feuilles de gélatine, d'une gousse de vanille ou de l'extrait de vanille, de 50 centilitres de crème fraîche liquide, de 300 g de fraises, d'un jus de citron. Pour le matériel, vous aurez besoin de 6 verrines. Moi, j'aime bien le mettre dans les verrines, parce que vous allez voir, je vais vous montrer, c'est compliqué, mais vous donner une astuce pour que votre dessert soit un peu joli et pas comme d'habitude rectiligne. On va le faire de travers. Donc on aura besoin de 6 verrines, une casserole, un bol, un presse-agrumes, une cuillère en bois et un mixeur. Et un chinois. Voilà, avant de commencer toutes ces explications, bah écoutez, moi je vous propose déjà une première pause et on se retrouve tout de suite.
Je suis dépassé par le temps, j'ai besoin de prendre l'air. Regard noir dans le vide, je dévisage ce qu'il reste de mon avenir.
Mes souvenirs deviennent liquides, je voudrais en quitter le navire. Et finalement j'en perds mon temps, comment puis-je me perdre autant? Le vent se lève, je tenterai d'être un survivant. Au bout de mes lèvres, les mots m'attendent, ils se serrent mais jamais ne tombent. Au fond de moi, je suis fait de catacombes. J'ai le chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. L'arme est une solution, je deviens l'ennemi de ma raison, je deviens l'ami de mes pulsions. Je me cacherai parmi les ombres, je suis séduit par les fausses. Séduit comme Faust, je me rapproche de mes défauts. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. Et pourtant la nuit ne me porte plus conseil. Je n'ai plus sommeil, je n'ai plus de réveil. C'est complexe d'exister mais au moins j'essaye. Chronomètre dans la tête. Combien de rêves me faudra-t-il pour que les heures s'arrêtent? Je suis dépassé par le temps, je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire, mais je suis au fond de l'enfer. Je suis dépassé par le temps. J'ai besoin de prendre l'air, je veux rejoindre la lumière. Depuis quand est-ce que j'ai mal tourné? Car je me sens tout décentré. Je ne suis plus pareil. Je ne suis plus le même. Je ne connais plus le thème. Je poursuis le soleil. Je suis dépassé par le temps. Je ne pense plus comme avant. J'ai besoin de prendre l'air. Je veux rejoindre la lumière. Je me nourris de distance pour sentir mon existence. J'ai besoin de me distraire.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, rebonsoir, nous revoici donc et on va commencer par notre entrée, à savoir notre quiche tatin. Mais Nathalie, la quiche, c'est quoi son origine?
Alors, historiquement, les quiches et échaudées. Échaudées, ça veut dire galette, c'est une galette médiévale de pâte levée cuite à l'eau bouillante. Ce sont des galettes simples et populaires, admises les jours maigres et fabriquées par les boulangers. Et non, les pâtissiers, c'était que les boulangers. Il existe de longue date dans les pays germanophones des quiches locales qui laissent penser que l'origine de ces tartes recouvre une vaste zone d'Europe centrale. Speckkuchen, populaire gâteau au lard sur pâte à la farine de seigle, de Hesse, vendu par les boulangers, est attesté en 1653 à Weimar et qui connaît des versions au poireau et à l'oignon. It's Blotz, bavarois, à la crème sur pâte à pain à la farine de seigle. Specktorte de Sarrebruck, à la viande séchée, dont les recettes datent de 1731 et 1799 et dont il existait des versions sucrées, par exemple à Brunswick, en Basse-Saxe. Speck, persil, raisin de Corinthe et sucre. Et Dier Lottinger Specktorte, c'est la quiche lorraine. C'est une variante devenue célèbre. En Suisse et dans le Jura français, la même recette de crème aigre au jaune d'œuf sur pâte à pain existe sous le nom de torché, qui veut dire tarte. Et elles sont mentionnées en Lorraine d'après Jules Renaud. Le 1er mars 1586, 9 gros de quiche et échaudés sont servis à la table de Charles III, qui recevait le marquis de Pont-à-Mousson. Quiche est également attestée en 1594 et dans les comptes de l'hôpital Saint-Julien de Nancy en mars 1605.
Donc la quiche, elle est pas d'aujourd'hui, hein ?
Non.
Elle est pas d'aujourd'hui. Merci Nat. Alors voyons ensemble cette recette. Je vous rappelle les ingrédients. Donc 20 centilitres, c'est mieux parce que 20 litres, 20 ça litres, va pas le faire.
Ouais.
C'est pour une grosse quiche. Donc 20 centilitres de crème fraîche, 150 grammes de gruyère râpée, une pâte feuilletée, du sel, du poivre, 7 pommes de terre, 8 fines tranches de lard, 3 œufs entiers, un petit fromage de chèvre. Pour le matériel, un moule à tatin, une râpe, un couteau, un saladier, un fouet, un cuit-vapeur et une fourchette. Alors, pensez qu'il vous faudra 15 minutes de préparation. Donc là, pour le fait, ce n'est pas très très long. Par contre, il y a 50 minutes de cuisson parce qu'il faut que ça se cuise tout doucement, gentiment et très longtemps. Voilà. Alors, dans un premier temps, donc cette quiche tatin. Donc, il faut imaginer que vous faites une tatin. On est bien d'accord. Donc, dans un premier temps, déjà, on va, dans un cuit-vapeur, on va mettre les pommes de terre, ce qu'on appelle en robe des champs.
Oui.
Hein, donc avec,
avec la peau,
vous les nettoyez bien avant et on va les mettre à la vapeur au moins 15 minutes. Il faut pas qu'elles soient, croquantes, mais pas bien cuites. C'est important parce qu'elles vont recuire 50 minutes après, donc il faut qu'elles soient pas trop cuites. Sinon, elles vont s'écraser, ça va pas être ce qu'on espère. Une fois qu'elles sont froides, une fois que les 15 minutes sont faites, on les laisse refroidir. Vous pouvez les baigner dans l'eau froide, ça refroidira plus vite. Et puis, on va les éplucher et les couper en rondelles. Donc, et laissez bien refroidir. Hein. Surtout, n'allez pas vous brûler, ça ne sert à rien. Une fois qu'elles sont bien refroidies, donc vraiment fine lamelle, hein, c'est plus sympa parce que c'est plus sympa à manger. Ensuite, on va préchauffer donc notre four à 200 degrés, c'est-à-dire le thermostat 7, 8, tout dépend de votre thermostat. Et puis, on va tapisser de lard notre moule à tatin. Donc les 8 tranches qu'on a prises, on les tapisse bien en remontant sur le bord. Et puis, on va déposer dessus le râpé, le gruyère ou le comté sur les tranches de lard. Et puis ensuite, vous allez mettre vos pommes de terre coupées en rondelles et sur le râpé et déposer du fromage de chèvre par-dessus. Voilà, donc on a une couche de lardon, de lard, une couche de pommes de terre, de gruyère, une couche de pommes de terre et le chèvre. Et on va maintenant battre dans un saladier de la crème, de l'œuf, un petit peu de sel, un petit peu de poivre et on va verser tout ça sur nos rondelles, sur notre préparation qu'on a fait. Une fois que vous avez fait ça, maintenant on va mettre la pâte feuilletée. Donc il faut vraiment visualiser que c'est une tarte tatin. Donc c'est une tarte à l'envers.
Oui.
Donc il faut qu'on glisse le bord de la pâte parce que vous allez en avoir un petit peu trop. Donc vous glissez entre votre préparation et vous le faites avec vos doigts hein, et le moule. Et vous allez voir, ça se fait très très facilement. C'est pour ça que c'est important que ça soit froid, votre préparation, parce que si c'est chaud, la pâte, elle va se ramollir. Voilà, donc une fois que vous avez bien fait, mis à l'intérieur votre pâte, à l'intérieur de votre moule, votre pâte, et bien votre pâte, elle est bonne à cuire. Vous n'oubliez pas de la piquer, donc avec une fourchette, hein, vous faites quelques petites piques pour que ça s'évapore. Un petit peu, si jamais il y aura automatiquement du jus, hein, le gras du lard. Et puis, vous allez enfourner et à peu près une quarantaine de minutes dans un premier temps. Et puis, vous regardez si vos pommes de terre, donc toujours avec, et puis votre fond de tarte est cuit. Et quand il commence à bien prendre de la couleur, c'est fini, c'est cuit. Voilà. Alors, une fois que c'est cuit, ben, vous allez vite servir. Vous mettez votre plat à tatin sur une assiette. Vous retournez, vous secouez et le gras, en fin de compte, du lard...
Empêche de coller.
Empêche de coller. Ah. Donc, tout va se décoller. Si vous avez bien fait votre montage, eh ben, il n'y a pas de, y a aucun problème. Et vous servez ça vraiment un petit peu tiède. Hein. Vous pouvez servir ça froid aussi, c'est aussi bon. Hein, puisque la pomme de terre, c'est une espèce de grosse tapas. Hein,
oui,
comme
c'est
on fait
ça.
Comme on fait en Espagne.
Tortilla un peu.
Oui, c'est ça, c'est ça. Sauf que là, c'est une quiche tatin parce qu'il a de pâte en plus.
Oui.
Et puis, ben, vous pouvez faire ça avec une belle salade. Ça, vous pouvez faire en entrée. Donc, faites attention aux portions. Ou en plat, voilà, ça se déguste super bon. C'est génial. C'est facile aussi à faire. Voilà, ben, écoutez, Nathalie, peut-être quelques mots ou alors il y a peut-être une pause. Eh bien, il y a une pause. Donc, Nathalie, elle nous dira tout à l'heure sur un matériel qu'on utilise très souvent. À tout de suite.
Parc Babyland Amiland, 34 attractions.
Non. Maintenant, c'est Parc Winoland.
Parc Winoland.
Parc Winoland, 34 attractions. La grande roue, le voltigeur, la montée fantastique, le slalom, la bûche dansante, le pteranodon, la coccinelle géante, la rivière canadienne.
Parc Winoland, à 30 km au sud de Paris, ouvert tous les jours dans l'Essonne, au cœur de la forêt de Rougeot. Winoland.fr.
Winoland.fr. Winoland.fr.
Winoland, la magie de l'amusement.
En famille.
Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr.
You say you wanna taste them, bottle me up. But I show only once is never enough. Zero to 60 from the second we touch. You say you're falling in love. You just might get what you want.
jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici et puis on allait Nathalie allait nous parler d'un matériel qu'on utilise très très souvent en cuisine ou en pâtisserie, c'est le four.
Tout à fait.
Et quand est-ce qu'il est apparu ce premier four?
Alors les premiers fours sont apparus en Mésopotamie il y a environ 5000 ans. Et initialement en terre, il fonctionnait au bois, seul combustible, aisément disponible de l'époque. Les Grecs firent évoluer le four égyptien en plaçant la porte à l'avant et en ajoutant une sole pour cuire les aliments. Les Romains emportèrent les techniques grecques en construisant les fours avec un nouveau matériau, la brique réfractaire. Le four à bois fut diffusé dans l'ensemble de la Rome antique. Et au Moyen-Âge, le four à bois devient une banalité dont le seigneur tire profit. Le four banal se généralise sur l'ensemble du territoire français. Les familles disposaient rarement de fours. Ce type de four laisse sa place au four à bois qui apparut dans les années 1890. Son utilisation réservée aux boulangers et aux collectivités va représenter une évolution majeure en remplaçant le four à chauffage direct qui remontait à l'époque romaine. À la fin du 19e siècle, l'apparition du four électrique et du four à gaz révolutionne la cuisson des aliments. À partir de 1940, les cuisinières à gaz et électriques comportant un four se généralisent dans les habitations. Quant au four à micro-ondes, lui, il se répand dans les années 1970. Et oui, ces innovations sont aujourd'hui présentes dans la plupart des cuisines.
Merci Nat. Dis donc, 70 le micro-ondes, c'est et incroyable.
Oui. Ah ouais.
Je croyais que c'était plus ancien.
Bah, surtout que moi, enfant, on n'avait pas ça. Donc, c'était vraiment une élite, je pense.
Moi, je ne me souviens pas avoir ça.
Non, vraiment.
Avoir eu micro-ondes. Moi, j'ai eu ça, quoi. Dans
les années 90, je pense.
Ouais, quand je me suis mariée, quand j'ai eu mon premier gamin. Donc, ouais 91.
Ouais, c'est
91,
ça.
90. Mm-hmm. Tu vois, ça faisait 20 ans. Hein, donc, comme quoi, ça a du mal à arriver, quand même. Bien. Eh bien, écoute, merci. Alors, on va faire la seconde partie de notre menu, à savoir l'osso bucco de veau. Et tu as encore quelque chose à nous dire, cette fois, sur l'histoire de l'osso bucco.
C'est marrant, tu dis l'osso bucco, tu le dis à la française. Je crois qu'on dit à l'italienne l'osso bucco.
Ah ben, tu dis ce que tu veux. Moi, j'ai dit osso bucco. Voilà, je le dis comme je le pense. Là, je vois que... Non, Théo ne dit rien. C'est bizarre. Oui, j'ai du mal avec les langues étrangères, si tu n'avais pas remarqué encore.
Donc, l'osso bucco, en langue lombarde, l'osso bus, est traduit littéralement en français par os troué. C'est un plat traditionnel milanais très parfumé, constitué d'un ragoût de tronçon ou rouelle de jarret de veau, braisé au vin blanc sec et agrémenté de légumes comme les carottes, les tomates, les poireaux, que l'on sert généralement accompagné de risotto à la milanaise. La moelle est cuisinée et servie avec son os. En français, ce plat est souvent orthographié osso bucco par hypercorrection. Il est connu depuis le XVIIIe siècle comme étant l'un des plats typiques de la culture culinaire lombarde. En français, il est attesté comme un terme de cuisine depuis le XIXe siècle. Une variante traditionnelle dite à la gremolata sans tomate est agrémentée d'un hachis d'ail, d'un zeste d'orange ou de citron. Lorsqu'il est dit à la gremolata, de noix de muscade râpées et servies généralement avec des pâtes. Ce mets devenu international se cuisine aussi en remplaçant le veau par la dinde. Il est très populaire en Belgique et dans le nord de la France.
Et oui, c'est encore la Belgique et le nord alors qu'il vient de l'Italie, c'est incroyable.
C'est monté.
Vachement monté quand même. Hein. Alors justement, pour ces explications, il nous faut les ingrédients. Et pour les ingrédients, je vous les rappelle, il faut 10 centilitres d'huile, une boîte de tomates concassées 400 grammes, 400 grammes de tomates concassées, je vais y arriver, 200 grammes de carottes, 100 g d'oignons, de la farine, du poivre, du sel, 6 tranches de jarret de veau. Alors, si vous voulez remplacer le veau par le poulet, vous pouvez, ou la dinde plutôt, vous pouvez, c'est tout aussi bon et moins cher. Voilà, parce que le veau est un peu cher. Donc les jarrets, il faut à peu près qu'ils fassent 200 grammes, hein, puisque vous avez de l'os qui est à l'intérieur. 3 gousses d'ail, 20 centilitres de vin blanc, sec de préférence, un bouquet garni, donc c'est du laurier, du thym. Vous aurez besoin d'une cocotte, bien évidemment, d'un pinceau, d'un mixeur et d'un couteau. Pensez qu'il vous comptera à peu près 20 minutes de préparation et 45 minutes au niveau de la cuisson. Donc dans un premier temps, on va fariner la viande. Pour cela, moi, vous connaissez mon petit truc. Je mets dans un sac style congélation. Alors pourquoi dans un sac congélation? Parce que quand on a de moins en moins de sacs plastiques, et les sacs plastiques qui sont dans les magasins, ils ont un produit dessus, oui. Donc on évite. Donc moi, je prends un sac congélation qui n'a jamais servi. Je mets ma farine à l'intérieur, je mets ma viande en morceaux à l'intérieur, je secoue le sac et je tapote quand je retire les morceaux de viande. Comme ça, le surplus, l'excédent de farine s'en va, je mets dans une assiette et je passe à la cuisson. Voilà, c'est tout simple. Quand vous avez à frire du poisson, par exemple, vous faites exactement la même chose. Après, ce qui reste en farine, vous le jetez à la poubelle avec le sac terminé. Oui. Voilà, c'est pour ça que vous n'en mettez pas trop, il vaut mieux en rajouter. Moi, je mets à peu près 2 cuillères à soupe de farine, ça me suffit largement. Voilà, donc pareil, hein, quand vous faites des fritures des perlans, c'est exactement la même chose. Vous pouvez rajouter des épices aussi dedans, ça peut être aussi sympa. Voilà, donc on va maintenant faire dorer notre viande donc dans une cocotte minute. On va mettre pour cela un fond d'huile. On fait revenir la viande 5 à 10 minutes. Ensuite, on va peler et couper les carottes en rondelles un peu épaisses, hein, 1 cm, 2 cm même, c'est bien. On va éplucher et émincer l'oignon. Ensuite, on épluche et on hache l'ail. Et puis, on va ajouter tout cela dans la cocotte. Ainsi que les tomates concassées et le vin blanc. Vous salez, vous poivrez. Si après la cuisson, vous voyez qu'il manque du sel, du poivre, effectivement, vous rajouterez. Donc, n'en mettez pas trop au départ, ça ne sert à rien. Il vaut mieux en rajouter à la fin qu'en mettre de trop.
Oui.
Donc, vous ajoutez évidemment votre bouquet garni, vous fermez votre cocotte et vous laissez cuire pendant 45 minutes à partir du moment où votre soupape, elle, se met en rotation. Voilà, tout simplement, et tout ça à feu doux, bien évidemment. Hein, et puis, donc, vous, au départ, vous le faites à feu vif. Et quand la soupape, tourne, ouais. En fin de compte, ou siffle, hein, vous mettez au minimum votre feu. Et vous mettez 45 minutes, voilà. Et quand vous avez ouvert, quand les 45 minutes sont passées, vous servez ça avec des tagliatelles et parsemées d'un petit peu de parmesan ou des spaghettis, hein, comme on veut. Voilà, c'est délicieux avec des pâtes. Ou des coquillettes aussi, hein, parce que les enfants, ils aiment bien. Voilà, mais ça se cuit, ça se présente avec des pâtes. Moi, je le fais toujours. Vous pouvez faire aussi une purée éventuellement. Voilà, avec des petits trous, comme ça fait les trous du jarret.
J'ai une question.
Dis-moi.
Je n'ai pas de cocotte minute.
Ça sera beaucoup plus long.
Je pense que je ne suis pas la seule. Non. Est-ce qu'on peut le faire dans un autocuiseur?
Oui, tu peux le faire
avec la cuisson sous pression.
Oui, mais c'est la même chose. C'est l'autocuiseur de mémoire, je pense que c'est la même chose.
Ouais.
C'est exactement la même chose.
Oui, parce à partir qu'en du moment cuisson, où c'est. Tu as la vapeur qui s'échappe quand
et ben voilà, donc c'est ça. La même chose, donc 45 minutes. Si vous n'avez pas d'autocuiseur, si vous n'avez pas de cocotte minute, ouais. Dans ces cas-là, vous pouvez faire à la cuisson dans un faitout,
ouais.
Avec un couvercle. Et par contre, il faudra compter deux fois plus de temps. Cocotte minute, c'est sous pression, donc on a quand même un moelleux qui est quand même plus important. Et donc à partir du moment où ça bout, vous le mettez, vous baissez au maximum et vous mettez à peu près une heure et demie. C'est quand même du veau, donc il faut que ça cuise gentiment, doucement, mais sûrement. Voilà.
Ok.
Écoute, justement, comme tu nous parles de cocotte, est-ce que tu peux nous parler justement de cette cocotte minute ?
Alors, tout d'abord, il est essentiel de faire la distinction entre les termes autocuiseur, j'en parlais, et cocotte minute. Le premier désigne de manière générale la machine permettant la cuisson à la vapeur sous pression. Et le deuxième, la cocotte minute, c'est une marque déposée pour un type d'autocuiseur. Eh oui, c'est une marque, cocotte minute. À la fin du XVIIe siècle, l'inventeur de la machine à vapeur s'intéresse au problème de l'alimentation. En 1679, le physicien français Denis Papin imagine une marmite en fonte épaisse capable de transformer les aliments durs en aliments mous, faciles à consommer. Il la baptise le digesteur et c'est le tout premier autocuiseur. Le digesteur possède un couvercle muni d'une soupape de sécurité et lorsque la pression interne devient trop forte, un robinet en relâche un peu sous forme de vapeur. Le concept permet de réduire les temps de cuisson tout en obtenant les mêmes résultats qu'à feu doux. Une révolution pour l'époque, Denis Papin présente sa marmite à pression à la Société royale de physique aux côtés de Robert Boyle et rédige un livre de cuisine pour l'accompagner. Et finalement, l'autocuiseur tombe un petit peu dans l'oubli. Il faudra attendre plus de 200 ans pour qu'il devienne un essentiel des cuisines du monde entier. En 1948, Robert Devedjian, un ingénieur en fonderie, conçoit un autocuiseur en fonte d'aluminium et le français le baptise Cocotte Minute. Malheureusement, en 1951, sa société fait faillite et l'entreprise Seb, fondée par les frères Lescure, la rachète et inscrit la Cocotte Minute au registre des marques déposées. Et dès 1953, Frédéric Lescure commercialise la Super Cocotte, le seul modèle d'autocuiseur fabriqué par emboutissage. Il s'agit d'un procédé spécifique de mise en forme d'une pièce de métal qui confère une grande résistance à l'appareil. Comme sur la version de Papin, la soupape de sûreté en fait un équipement fiable, sans danger pour l'utilisateur. Le succès est immédiat et dès 1954, la Cocotte Minute de l'entreprise Seb se vend à 130 000 exemplaires, toujours fabriqués en Bourgogne dans l'usine de Sélonguet. L'autocuiseur représente aujourd'hui plus de 75 millions de ventes.
Mais tu vois, donc je pense que tout le monde en a. Enfin, moi, j'ai encore le vieux autocuiseur.
Oui, non, mais voilà, quand c'est resté dans la famille, possède encore. Mais moi, j'en ai pas. Mais les autocuiseurs qu'on a aujourd'hui, c'est la même entreprise, hein, donc.
Oui. Mais alors, j'en ai un nouveau, hein, mais il est plus petit. Donc, du coup, je l'utilise beaucoup moins. Mais il est tout neuf encore. Il est encore tout neuf, voilà. Donc maintenant, on sait la différence entre autocuiseur et cocotte minute.
Et oui.
Voilà. Ce n'est que le nom, on va dire. Hein, voilà, on a tous des autocuiseurs dans notre... Mais on ne le sait pas forcément. Eh bien, écoutez, avec tout ça, Nathalie, merci. Et puis, je vous propose une pause et on se retrouve tout de suite après.
Salut, c'est Pierre Demar sur Infini Radio.
Tourner le monde à l'envers. sexy qui pourrait me faire aimer tout et son compteur. Je cherche une fille d'une autre galaxie qui pourrait me faire aimer tout et son compteur.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Alors nous revoici sur la troisième partie, celle que Nathalie préfère hein, d'ailleurs. Hein,
le sucré,
Nathalie, c'est une sucrée. Ben justement, ouais. Nathalie, peux-tu nous dire, on reste dans l'Italie avec la panna cotta.
Tout à fait.
Eh ben vas-y, je t'écoute au niveau de la panna cotta.
Alors, la panna cotta, qui signifie en français crème cuite, c'est un dessert traditionnel de la cuisine italienne, originaire du Piémont, mais populaire dans toute l'Italie. C'est à base de crème, de lait, de sucre et de gélatine. Ettore Sonfia, chef étoilé d'Itre Citroni à Coni, voilà, j'ai pas mis l'accent italien parce que je ne l'ai pas, a sans doute été le premier à en codifier la recette et à inscrire son nom sur la carte d'un restaurant gastronomique, et tout ça au milieu des années 1960. La panna cotta serait une descendante plus ou moins éloignée de l'atismel. On retrouve la trace d'une recette ressemblant étrangement à la panna cotta actuelle dans une lettre que le poète Giacomo Leopardi écrivit à son père en 1827 même, lors de son séjour à Bologne. La recette du latte imel est très simple car elle se compose de fiordi latte et de crème, de gelée culinaire non salée et de sucre. Elle pourrait aussi venir de la recette du fromage bavarois de Marie-Antoine Carême. En effet, cette recette que l'on trouve dans le pâtissier royal parisien est la même que celle de la panna cotta moderne, à la différence qu'une partie de la crème est montée en chantilly avant l'ajout de la gélatine. La crème très prisée en Italie du Nord était historiquement consommée nature ou sucrée, avec des fruits ou des noisettes. Les recettes originelles, font apparaître l'emploi de gélatine extraite d'un bouillon d'arête de poisson. Le sucre, produit exotique d'importation coûteux, n'était alors pas accessible aux classes populaires. Et la vanille, elle, est utilisée à partir des années 1970.
Eh bien, merci. Tu vois, la vanille, années 70, c'est hallucinant quand même. Hein.
Bah, je pense que ça vient souvent de Madagascar, tout ça. En fait, il n'y avait pas d'importation à l'époque, certainement.
Ouais, je sais pas, étant donné que ça vient quand même des colons, la vanille, il me semble bien qu'on avait vu l'histoire là-dessus, non? Ah, peut-être pas encore. Bon, bah, ça viendra.
Là, faudrait que je révise.
On aura plus de... La prochaine fois, on fera peut-être une expo sur l'origine de la vanille.
Ouais.
Parce qu'il y a quand même plusieurs vanilles, hein, donc nous, t'as raison, on l'a jamais fait. Tiens, ça c'est à retenir. Très bien. Bon, et voyons ensemble notre panna cotta. Donc moi j'ai fait à la fraise. Voilà, parce qu'on est en pleine saison des fraises, qu'on a des très très bonnes fraises qui sont très goûteuses. Faut juste bien tomber dessus. Voilà, on a aussi certaines fraises qui sont pas très très belles, mais voilà, choisissez des petites fraises gariguettes, elles sont magnifiquement bonnes et elles sont très très parfumées. Vous pouvez faire ça avec de la fraise des bois aussi, ça se trouve de moins en moins, mais avec la fraise des bois, vous pouvez faire ça avec De la framboise.
Voilà. En fait, on peut mettre quasiment tous les fruits dans la
panette. Tous les fruits. À partir du moment où vous allez faire un petit coulis avec. Enfin, voilà. Je vais vous expliquer toute cette recette. Alors, donc, il nous faut pour cette recette 100 g de sucre, 100 g de sucre, 2 feuilles de gélatine, une gousse de vanille ou de l'extrait de vanille, 50 centilitres de crème fraîche liquide, 300 g de sucre,
de fraises,
c'est mieux, un jus de citron, 6 verrines, une casserole, un bol, un presse-agrumes, une cuillère en bois, un mixeur et un chinois. Comptez qu'il vous faut 15 minutes de la préparation, il vous faut 10 minutes de cuisson. Par contre, pensez qu'il faut 4 heures de repos frigo pour que la panna cotta se tienne bien. Donc, il faut anticiper. Faites ça peut-être plus la veille ou le matin pour le soir.
Le matin...
Voilà. Moi, j'aime bien faire le soir pour le lendemain soir. Comme ça, elle pose bien.
Ou le lendemain midi, mais faire la veille, ouais.
Mais faire la veille, c'est quand même beaucoup mieux et c'est sécurisant, surtout. Surtout qu'on va pencher les choses, vous allez voir. Mm-hmm. Donc, pour poursuivre, donc on va déjà mettre dans un premier temps les feuilles de gélatine, on va les mettre dans l'eau froide, de façon qu'elles se ramollissent. Une fois que vous avez fait ça, vous allez mettre la crème, la moitié du sucre. L'autre moitié, on va la garder pour le coulis qu'on va faire. Et on va mettre donc la moitié dans une casserole de sucre avec la crème et la vanille. Alors, si c'est d'extrait de vanille, vous mettez quelques gouttes. Si c'est la gousse de vanille, vous la fendez en deux et vous enlevez l'intérieur avec un couteau, mais vous laissez la gousse de vanille à l'intérieur. Voilà, de façon à ce que vous ayez toute l'essence et le parfum de cette vanille qui va se dégager en frémissant. Et donc, dans la casserole, vous faites frémir. Une fois que vous avez au début du frémissement, hein, de l'ébullition, donc c'est vraiment très rapide, puisque vous n'avez que 550 centilitres. Donc, vous retirez la casserole du feu et vous y ajoutez les gélatines égouttées. Donc, les gélatines, c'est simple, on les prend en main dans de l'eau, vous les écrasez de façon à enlever l'eau et puis vous allez les mettre dans la casserole chaude. Vous remuez bien, vous mélangez bien, quitte à prendre un fouet pour bien tout mélanger. Vous voyez que la gélatine est complètement dissoute, et ben vous passez tout au chinois, de façon à ce que s'il y a des petits résidus, parfois il y en reste, hein. Moi quand j'ai des vieilles feuilles qui datent de Mathusalem, donc voilà. Après, si vous avez de la gelée en poudre, c'est tant mieux.
De la agar-agar.
Attention, moi j'ai jamais travaillé la agar-agar, donc je ne peux pas.
Faut en mettre très peu, hein.
Je ne peux pas vous dire les mesures. Moi, je sais que 2 feuilles, ça correspond à ma recette. Maintenant, la agar-agar, je ne sais pas du tout comment le cuisiner. Il faudra qu'un jour je fasse un essai, mais le jour n'est pas encore venu. Voilà. Donc, on passe au chinois et puis vous allez verser dans vos coupelles. C'est là que ça devient intéressant. Donc, vous allez laisser refroidir, placer 4 heures au frigo. Donc, avant que ça gélifie, c'est bien de le faire la veille parce que la petite astuce, c'est de les mettre au frigo incliné. C'est-à-dire que si vous avez des moules, donc si vous des petits moules à muffins par exemple,
oui.
Tu mets tes verrines inclinées et tu verses et tu auras en diagonale. En fin de compte, ta panna cotta va gélifier en diagonale.
Oui.
Donc tu vas avoir une partie blanche et une partie vide.
Donc les moules, c'est pour, en fait, c'est le support pour pouvoir, parce que je me disais comment on va pencher.
Voilà, le moule mou. Alors bon, moi avant que j'avais pas ça, donc je faisais avec un torchon, enfin, et je bricolais toujours des trucs ou avec une règle. Enfin bon, voilà, faut arriver à les incliner de façon à ce que votre liquide vienne au bord de votre de votre verrine et que ça vienne jusqu'au fond, mais en diagonale. Voilà, c'est l'astuce du jour. Mmh. Et ça fait un effet au montage, mais d'enfer. Vraiment, c'est super sympa à faire. Ensuite, vous allez faire, donc on va passer au coulis. Donc pour ça, bah, vous allez mettre vos 200 grammes de fraises, 200 grammes hein, de fraises. Vous gardez les 100 grammes pour autre chose. Donc 200 grammes de fraises, le reste de sucre, donc 50 grammes, un jus de citron pressé, vous mixez tout ça, vous ajoutez un petit peu au fur et à mesure, donc à peu près 10 centilitres. Voilà, vous mixez bien. Vous passez tout ça au chinois pour enlever tout ce qui est petits pépins, les petites choses comme ça. Et c'est prêt. Voilà, le coulis, il est prêt. Alors, vous pouvez le faire chauffer si vous voulez, mais une fois mixé, il ne bougera plus. Vous avez le citron qui va faire. Et puis, comme on n'a pas mis beaucoup d'eau, automatiquement, ça va être vraiment très peu liquide.
D'accord.
Vous pouvez très bien ne pas mettre d'eau. Si vous voyez que vos fraises, elles sont un peu liquides, vous ne mettez pas d'eau, ce n'est pas obligatoire. Voilà, donc maintenant on va passer au montage. Donc pour cela, on va couper le reste des fraises, donc il nous reste 100 grammes, ça nous suffit largement. On va couper en petits morceaux, mais vraiment petits, de façon qu'en bouche, ça soit très fin, pas en purée, mais en petits morceaux. Voilà, après tout dépend de la verrine que vous avez. Voilà, mais plus c'est fin, meilleur ça sera. Vous pouvez le faire en rondelles aussi. En demi-lune, vous coupez votre fraise en deux et puis vous coupez des tranches. Voilà, ça peut être ça aussi, plutôt qu'en petits morceaux. Voilà, vous versez, donc vous mettez vos fraises, vous mettez vos fraises de côté une fois qu'elles sont coupées. Vous versez le coulis de fraises sur la partie vide de l'inclinaison du côté à côté de la panna cotta.
Mais une fois que la panna cotta est prise,
bien
donc
sûr.
Donc je pense qu'il faut mieux attendre le lendemain du coup pour faire le coulis, oui.
Alors j'ai tout à fait. Mais tu peux faire le jour même le coulis et le mettre au frigo,
oui,
ça bougera pas.
Oui, bien sûr, il bougera pas.
Ça bougera pas. Donc vous remettez votre verrine droite, vous coulez votre coulis de fraise, vous mettez par-dessus des petits morceaux de fraise, vous rajoutez pour un effet un petit peu plus sympa, une feuille de menthe, et vous servez très frais. Et une feuille de menthe, ça suffit, et vous allez voir, même la menthe va parfumer un petit peu légèrement la fraise et la panna cotta. C'est délicieux, c'est vraiment super bon. Voilà, c'est un dessert encore très simple et très facile à faire et rapide, surtout. Rapide, j'entends bien. Enfin, oui. Là, au niveau de la préparation, on ne peut pas dire...
Après, il y a de l'attente, mais la préparation est rapide.
Voilà. Et après, vous pouvez faire avec n'importe quoi. Là, on a des mangues. On
parlait de rhubarbe la semaine dernière. Je pense qu'avec de la rhubarbe, ça peut...
Alors, il faudra cuire la rhubarbe.
Oui, bien sûr, il faut la cuire.
Mais
pour
en compotée, plutôt que d'un coulis, on fait une compotée de rhubarbe. Mais ça se marie très bien avec... n'importe quel fruit, ouais. Éclatez-vous, soyez inventifs, voilà. Enfin, quand on va commencer à faire des salades de fruits, vous pouvez très bien faire une panna cotta avec la salade de fruits. Voilà, ça fait un mix des deux. Voilà, moi je vous donne des idées, vous en faites ce que vous voulez. Alors Nathalie, on a parlé justement ces 4 heures de frigo. Eh bien moi j'aimerais bien que tu nous dises depuis quand il existe ce frigo.
Alors, avant l'invention des réfrigérateurs, on conservait les denrées périssables dans une pièce spéciale, le cellier. Et généralement, il était orienté vers le nord. L'usage se développa aussi particulièrement à la Renaissance, de stocker la glace découpée l'hiver sur les étangs dans une glacière. Il s'agissait d'un trou fermé par un couvercle isolant dans lequel on alternait des couches de paille ou de sciure de bois et de glace. Comme l'air froid descend et que l'air chaud monte, l'orifice de remplissage se situant en haut, la température basse se maintenait à une partie de la glace ainsi stockée, se conservait jusqu'à l'été. Il existait aussi le laitès, également appelé cabenaire. C'est une niche à lait, frigo à lait, qui était un frigo servant à conserver le lait au frais après la traite et avant la descente au lieu de vente. Des inventeurs tentèrent de fabriquer de la glace artificielle à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle. Et en 1755, l'Écossais William Cullen obtient un peu de glace par vapeur d'eau sous cloche à vide et en fit la première démonstration publique en 1756. En 1834, Jacob Perkins, un Américain, comme son nom le dit, invente la première machine frigorifique fonctionnelle. Puis, un peu plus tard, Perkins est crédité du premier brevet de réfrigération utilisant le cycle de compression de vapeur attribué le 14 août 1835. Le système de la machine était l'utilisation de l'éther dans un cycle de compression de vapeur. Cette idée serait venue en premier d'un autre inventeur américain, Oliver Evans, qui avait conçu ce système en 1805, mais qui n'a jamais fait construire son projet. En 1850, Ferdinand Carré invente une machine frigorifique à l'eau et à l'ammoniac. La première utilisation industrielle d'une machine frigorifique est celle de James Harrison en 1851, lorsqu'il a fabriqué un système de réfrigération à compression de vapeur. James Harrison était un imprimeur écossais, émigré en Australie, qui avait acheté une entreprise de presse. Alors qu'il nettoyait des caractères à l'éther, il remarqua que le liquide refroidissait fortement le métal en s'évaporant. Harrison eut l'idée de comprimer l'éther gazeux avec une pompe pour le transformer en liquide, puis de laisser l'éther liquide revenir à l'état gazeux en provoquant un refroidissement. Harrison mit ce système en œuvre dans une brasserie australienne où le gaz froid d'éther était pompé dans des tuyaux qui circulaient dans les bâtiments. Il utilisa le même principe pour fabriquer de la glace en faisant passer dans de l'eau des tuyaux refroidis par l'éther gazeux. Mais il fit faillite en 1860 car la glace naturelle qu'on importait par bateau d'Amérique restait moins chère. Qu'est-ce que me dit Théo ? Oui, Théo me dit que je suis trop longue, certes, mais c'est important de savoir d'où vient le réfrigérateur. Donc je vais finir si tu veux bien. Albert Einstein ? Non, il ne veut pas. Donc on fait une pause ? Ok, on fait une pause, je vous dirai après où on en est arrivé pour avoir des réfrigérateurs comme les nôtres.
Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches et on va les passer ensemble. Ah, je suis trop malheureux sans elle. Et je veux qu'il le ressente. Je veux le voir et j'irai jusqu'à en avoir le pull taché de sang. Jusqu'à la bave et les sanglots. Je parlerai comme un Italien avec les mains. Et j'aurai enfin plus aucun secret à dire. Sculpture au marteau, peinture au couteau. Je me suis jamais senti autant créatif. Demain j'irai graver mon deuil sur sa peau. Et ma balance affichera 10 kilos de moins. Increvable colère, je suis pas désolé. Il est mort le soleil. Mon Dieu qu'elle me manque. Tout s'éteint des crescendo. Ma terre s'arrêtera bientôt. Et c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, quel manque. Tout s'éteint des crescendo. Bientôt plus rien à perdre. Je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Oh, je veux qu'il le ressente. Je recherche le bruit comme une drogue. Dans le silence, ma mémoire joue les pires mélodies. J'essaye d'éjecter le disque. Oh, mais ça reparaît mes molaires. Font des étincelles, je déraillais la seule qui pourrait m'aider, c'est elle. Quelle ironie. Ah ouais, quelle ironie. Ok, si je suis resté à fixer les aiguilles jusqu'à la fin de la nuit, c'était pas pour voir si l'horloge marchait. Plus je m'interviewe, moins je sais qui je suis. Juste cette fille-là, c'est tout ce que je demande. Je ne saurais que faire du reste du monde. Je l'ai désiré perdument. Et maintenant je me sens tellement perdu, mon Dieu qu'elle me manque. tout c'est un décrescendo. Ma terre s'arrêtera bientôt et c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, quel manque. Tout c'est un décrescendo. Bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. Mon Dieu, qu'elle me manque. Tout c'est un décrescendo. Oh, ma terre s'arrêtera bientôt, c'est sûr c'est la faute de quelqu'un d'autre. Oh mon Dieu, qu'elle manque. Tout c'est un décrescendo. J'ai bientôt plus rien à perdre, je vais m'occuper de ce quelqu'un d'autre. M'occuper de ce quelqu'un d'autre.
À 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Tu reprends direct.
Donc je vais. Alors, du coup, je reprends ma petite histoire sur les réfrigérateurs. J'en arrive à Albert Einstein et son élève et collègue Léo Szilard qui brevettent en 1930 un réfrigérateur utilisant du butane, de l'eau et de l'ammoniac. Et ce n'est qu'en 1973 que les chimistes américains Frank Sherwood Rowland et Mario Molina réaliseront l'effet néfaste des CFC sur la couche d'ozone de la planète, conduisant au protocole de Montréal en 1985. L'isolation des premiers frigidaires était en liège. Comme il n'y a pas de forêt de liège aux États-Unis, les États-Unis faisaient venir le liège d'Espagne et du Portugal. Et en 1897, l'ingénieur chimiste américain Charles Corydon Hall développe un processus de conversion du calcaire fondu en fibres qui devient un matériau isolant et lance à partir de 1902 l'industrie de l'isolation en laine de roche en Amérique. Le produit, le liège, s'appelant cork en anglais, le produit de Hall s'appelait donc rock cork, est moins cher que le liège importé. J'ai ma voix qui part en sucette. Et il est ignifuge et résistant à la vermine. À l'époque où ils fabriquent ce matériau isolant, les principaux utilisateurs d'isolants sont les brasseries, les distilleries et les entrepôts frigorifiques. Ces entreprises sont sceptiques quant aux nouveaux matériaux isolants car ils ne ressemblent pas au liège. Néanmoins, l'entreprise de Hall prospère et le Frigidaire Appliance Company utilisera une grande partie de ce qui sera produit par Hall pour ses réfrigérateurs. Et depuis les années 1950, plusieurs modèles de réfrigérateurs sont de type sans givre et possèdent un système réfrigération-congélation par circulation d'air avec un évaporateur situé dans un compartiment isolé des autres compartiments pour la nourriture et un système de dégivrage automatique utilisant des éléments chauffants. Ce système no frost a pour conséquence une uniformisation de la température à un refroidissement plus rapide de l'air après l'ouverture de la porte, un assèchement accéléré des aliments non couverts et une augmentation de la consommation par rapport au système classique de dégivrage automatique.
Donc, quelle histoire !
Quelle histoire !
Quelle histoire ! Et dis donc, ça devait sacrément exploser dans les laboratoires quand même.
Ouais,
hein, parce que
les tests, ça devait être...
Avec de l'ammoniac, l'éther, et le butane, mon Dieu. Donc c'est grâce à ces grands hommes que maintenant on a plus les blocs de glace quand même. Hein. C'est quand même vachement mieux. Enfin bon, ça serait dommage qu'on revienne à l'ancienne hein, par mesure d'économie.
Clair. On pourrait pas.
Je crois qu'on pourrait pas. Quoique, ça ferait peut-être du bien à certains de revenir à l'ancienne pour pas mal de choses. Écoutez, on est déjà à la fin de notre émission. Il me reste une minute pour vous dire que vous pouvez nous retrouver sur Facebook, toutes les recettes, dans les podcasts, les podcasts. Les recettes sont à faire et à refaire, à partager en famille ou entre amis. la semaine prochaine, eh ben, je vous propose de faire une émission spéciale Fête des Mères, parce que la Fête des Mères, c'est le 4 juin. Donc, pour qu'on puisse préparer la Fête des Mères, pour que les enfants puissent préparer, donc j'ai préparé un petit menu sympa. Vous verrez bien. Voilà, on vous souhaite un bon appétit, une bonne soirée. Une excellente soirée. surtout, prenez soin de vous. Et puis, bonne soirée.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, même jour, même heure.